VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Nouakchott, 14h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. Mouvement de contestation au Soudan, le président soudanais déchu Omar al-Béchir est maintenant en détention à la prison de Kober à Khartoum. L'ancien chef de l'État renversé par l'armée le 11 avril sous la pression de la rue y a été transféré dans la nuit de mardi à mercredi, selon un membre de la famille présidentielle qui s'est exprimé sous couvert de l'anonymat pour des raisons de sécurité. Malgré ce nouveau geste des militaires au pouvoir pour apaiser les contestataires, après le limogeage du procureur général Omer Ahmed Mohamed mardi, des milliers de manifestants se sont rassemblés de nouveau ce mercredi devant le quartier général de l'armée à Khartoum. Les leaders du mouvement de contestation disent n'être pas encore parvenus à leur objectif. Ils réclament notamment la dissolution du conseil militaire au pouvoir et son remplacement par un conseil civil comprenant entre autres des représentants de l'armée. Et toujours concernant le Soudan, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a nommé un émissaire pour le Soudan afin d'aider l'Union africaine à conduire une médiation, alors que le Conseil de sécurité reste divisé sur ce dossier. Le point avec Claire Morin-Gibour.
Nicolas Ezom, un avocat sud-africain, fera tout ce qu'il peut pour soutenir les efforts de l'Union africaine. C'est ce qu'a déclaré Stéphane Dujarric, le porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Il a précisé qu'Antonio Guterres a discuté par téléphone avec Moussa Faki, président de la commission de l'Union africaine, du rôle de Nicolas Ezom, qui a déjà rempli des missions pour l'ONU en Somalie, en Afghanistan, au Soudan et au Soudan du Sud. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a fermement condamné la prise de pouvoir par l'armée et a menacé de suspendre le Soudan si l'armée ne cède pas le pouvoir à une autorité civile dans les 15 jours.
En Égypte, le Parlement a approuvé mardi un amendement à la Constitution permettant au président Abdel Fattah al-Sissi, élu en 2014, de rester au pouvoir jusqu'en 2030. Le point avec Nathalie Barge.
Le texte a été approuvé par une majorité des 596 députés. Le nouvel article 140 permet ainsi de faire passer le deuxième mandat de M. Sissi de 4 à 6 ans, portant son terme à 2024. Le chef de l'État égyptien pourrait en outre se représenter en 2024 à un troisième mandat de 6 ans. Ce vote du Parlement doit encore être suivi d'un référendum qui devrait être organisé dans les prochains jours. La campagne a déjà commencé avec plusieurs banderoles déployées dans les rues du Caire. Outre la durée du mandat présidentiel, la révision constitutionnelle doit aussi accroître le contrôle du pouvoir judiciaire par l'exécutif et institutionnaliser le rôle politique de l'armée. Abdel Fattah el-Sissi a été élu en 2014, un an après avoir renversé le président islamiste Mohamed Morsi, dont il était le ministre de la Défense. Sa réélection en 2018 a eu lieu dans le cadre d'un scrutin marqué par une série d'arrestations.
Conflit en Libye, Fayez al-Sarraj, chef du GNA, le gouvernement libyen d'union nationale reconnu par la communauté internationale, accuse son rival, le maréchal Khalifa Haftar, de crimes de guerre après des tirs de roquettes mardi soir sur Tripoli qui ont fait au moins 3 morts. Des allégations rejetées par l'ANL, l'armée nationale libyenne du maréchal Haftar, qui a démenti dans un communiqué être à l'origine de ces tirs. L'ANL rejette la responsabilité de l'incident sur ce qu'elle appelle les milices terroristes qui contrôlent la capitale. Pour sa part, la communauté internationale reste divisée sur l'offensive lancée par le maréchal Khalifa Haftar sur Tripoli. À l'ONU, toujours pas de consensus sur un projet de résolution sur la Libye soumis lundi soir par le Royaume-Uni à ses 14 partenaires du Conseil de sécurité. Résolution qui réclame un cessez-le-feu et un accès humanitaire inconditionnel aux zones de combat près de Tripoli.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Politique en Mauritanie, le premier tour de l'élection présidentielle dans le pays a été officiellement fixé au samedi 22 juin et un éventuel second tour au 6 juillet. C'est ce que révèle un décret présidentiel rendu public ce mercredi. La publication du décret ouvre la période officielle de dépôt des candidatures qui prendra fin le mercredi 8 mai. Parmi les candidats qui se sont déjà déclarés, le porte-étendard du parti au pouvoir, Mohamed Oul Cheikh Mohamed Ahmed, compagnon de toujours du président Mohamed Oul Abdelaziz, qui ne peut pas se représenter au terme de son second mandat. Également en lice, l'ancien chef du gouvernement de transition de 2005 à 2007, Sidi Mohamed Ould Boubacar, le militant anti-esclavagiste Biram Ould Abeid et l'opposant historique Mohamed Ould Mouloud. La campagne pour le premier tour est prévue du 7 au 20 juin. Les membres des forces armées et de sécurité voteront à la veille du scrutin, soit le 21 juin. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta Ibeka a annoncé dans une allocution radio-télévisée mardi soir l'ouverture d'une concertation nationale du 23 au 28 avril avec les forces politiques et sociales du pays sur le projet de révision de la Constitution. Le président Ibeka a aussi abordé, entre autres, l'école et la situation dans le centre du Mali, des détails avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Ibeka a commencé son discours par l'incendie qui a ravagé l'église Notre-Dame de Paris.
J'aimerais inviter tous nos compatriotes à se joindre à la douleur de la communauté chrétienne qui pleure Notre-Dame de Paris. Le joyau ravagé par le feu avait su traverser le temps. Aujourd'hui, il n'appartient plus à une confession, il est un trésor mondial.
Abordant les sujets nationaux, il dit que le salaire des enseignants grévistes sera débloqué avant de déplorer l'attaque d'Ouagadougou.
L'État, pour sa part, n'acceptera pas de dérogation et de sévérité avec la même rigueur contre toutes les milices et tous les fauteurs de guerre. Les mesures nécessaires ont été prises au niveau du gouvernement pour que des contingents supplémentaires des forces armées et de sécurité soient déployés sur le terrain.
Pour ce qui est de la révision constitutionnelle, Ibeka propose un débat national en préalable de la tenue d'un référendum.
Aussi ai-je décidé de confier à un groupe de 10 000 personnalités la tâche de diriger cette concertation nationale qui se réunira du 23 au 28 avril 2019, qui réunira tous les membres de toutes les forces politiques et sociales dans le pays.
Lors de son adresse à la nation, la principale revendication des Maliens relative à la démission du Premier ministre n'a pas été évoquée par le président Ibeka. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, mise en garde sans précédent du président Félix Tshisekedi aux élus qui, selon lui, manipulent les groupes armés. Le chef de l'État congolais les a menacés de poursuites pour complicité d'assassinat. C'était dans le cadre de sa première tournée à l'intérieur de la RDC depuis son investiture. Un voyage qui l'a conduit d'abord à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, puis à Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Eddie Sango.
Le président Félix Tshisekedi s'est exprimé hier à Beni dans le Nord Kivu. J'ai averti tous les acteurs qui manipulent les groupes armés. La loi va s'appliquer à eux dans toute sa rigueur, a-t-il déclaré dans une mise en garde. Tous ceux qu'on arrêtera, qu'ils soient députés national ou provincial, pas question d'immunité. Il sera traduit devant la justice et il sera condamné pour complicité d'assassinat, a poursuivi le président congolais. Aux combattants des groupes armés, il a demandé de déposer les armes car il n'y a plus de raison de faire la guerre, a-t-il dit.
Actualité hors d'Afrique, l'incendie de la cathédrale Notre-Dame, un joyau gothique symbole de Paris, provoque un élan de solidarité sans précédent. Une souscription nationale, des cagnottes à l'appel, des dons de grosses fortunes et peut-être même bientôt une conférence de donateurs. Plus de détails avec Morgane Guiriec.
Apple, la Banque Centrale Européenne, des milliers d'anonymes. Les promesses atteignent au moins 800 millions d'euros. La barre du milliard devrait être facilement franchie. Les sommes devraient continuer à affluer après l'appel à la mobilisation lancé par le patronat français aux entrepreneurs. Parmi les donateurs figurent de nombreuses associations, fondations et entreprises. Plusieurs grandes fortunes de France ont sorti leur carnet de chèques. La famille Pinault a promis 100 millions d'euros. La famille Arnault annonce un don de 200 millions. Et la famille Bettencourt-Meyers promet autant. Et dès lundi soir, le président Emmanuel Macron a confirmé qu'une souscription nationale allait être lancée pour une reconstruction qui s'annonce longue et difficile. De son côté, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé une contribution de 50 millions d'euros de la ville et souhaite organiser dans les prochaines semaines une grande conférence internationale des donateurs.
Et pour terminer, ici aux États-Unis, le président Donald Trump a opposé son veto mardi à une résolution du Congrès qui l'exhortait à arrêter tout soutien américain à la coalition conduite par l'Arabie Saoudite dans la guerre du Yémen. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.